Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, sans maître, sans publicité, mais avec des neurones et des doubles croches dans tous les sens. Nous sommes en direct de la salle Olympe de Gouges où nous célébrons les 40 ans de Radio Libertaire. La salle Olympe de Gouges, c'est 15 rue Merlin dans le 11e à Paris, métro Voltaire ou métro Père-Lachaise. Et à présent, l'émission qui arrive, eh bien, c'est Jazz Lib avec Yves et Laurent et qui vont vous parler d'un siècle d'engagement des jazz women et des jazz men dans une société honteusement ségrégée aux États-Unis d'Amérique. C'est parti.
Bonjour, merci d'être présent. Donc certains peut-être me connaissent puisque j'ai une émission premier et troisième jeudi de 19h30 à 22h sur le jazz. Et nous avons choisi, Laurent et moi, de vous parler le plus rapidement possible de l'engagement politique des musiciens de jazz. Alors je vais essayer de faire les choses à peu près en quatre périodes. Il y a, je dirais, la période primitive du jazz. Donc au début du siècle, l'entre-deux-guerres, l'après-guerre, les années 60 et 70. Et uniquement sur les États-Unis, parce qu'on pourrait parler de la France, mais ce serait un petit peu extrapolé. Donc l'idée, c'est qu'on a une fausse idée de l'engagement politique aux États-Unis. Lorsque l'on prend par exemple quelqu'un comme Martin Luther King, c'est quelqu'un qui est engagé politiquement, très clairement, mais en même temps qui est un pasteur et qui a donc une implication, un engagement, une foi religieuse. Et souvent, la société américaine, confond. Les deux engagements se confondent. Et nous, évidemment, je dirais en tant que libertaires, en France, pays de la laïcité qui a séparé l'Église et l'État, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à comprendre. Mais sur trois siècles, enfin quasiment quatre siècles d'esclavage, il y a un certain nombre de messages qui vont, s'interpénétrer. Le premier... qui est important de comprendre, c'est dans la Bible, l'Ancien Testament, il y a Moïse libérant les esclaves. Et ce thème est un thème qui va être, sous prétexte de chant gospel, être récupéré de manière politique. Vous imaginez bien qu'au début du siècle, quand les premiers musiciens de jazz s'expriment, déjà, la condition du musicien de jazz, elle est un tout petit peu meilleure que celle des esclaves, mais enfin, c'est quand même pas extrêmement rigolo. Je vous rappelle que Lincoln a proclamé l'abolition de l'esclavage en 1862 et qu'il a fallu un siècle de lutte permanente pour que soit enfin acté les Civil Rights Act, c'est-à-dire le droit de vote. Donc un siècle de lutte. Donc les musiciens qui commencent à jouer au début, ont peu d'outils politiques à disposition. Le message biblique est un message politique sous-jacent. En 1917, il y a le premier enregistrement de jazz, et déjà ça commence par une injustice, puisque c'est un orchestre de blancs. Et donc il faudra attendre les années 20 pour que les musiciens de la Nouvelle-Orléans puissent enregistrer leur musique, c'est-à-dire une bonne vingtaine, voire trentaine d'années après leur création. Donc vous voyez, il y a déjà ce premier dilemme. Je vais vous faire écouter un extrait parce que on ne va pas avoir le temps. En général, je sais que même lorsque j'ai deux heures, ça passe trop vite. Un extrait d'une chanson que vous connaissez tous, évidemment, qui est un gospel. Là, chanté par Louis Armstrong, c'est un enregistrement récent, mais évidemment, le gospel, lui, date de très très longtemps, qui s'appelle « Let my people go ». Et donc le texte, qui est un texte extrêmement religieux, dit « Moïse laisse les esclaves traverser pour aller rejoindre la terre d'Israël ». Mais sur le fond, c'est un discours politique qui consiste à nous dire, à dire aux Blancs, il serait temps d'arrêter cette ségrégation. Monique, quand tu veux.
Go down, Moses, way down in Egypt land.
Je te laisse le temps.
So hard they could not stand. Let my people go. So the Lord said, go down. Go down, Moses. Moses, way down in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go. Let my people go. So Moses went to Egypt land. Let my people go. He made old Pharaoh understand.
Oui, alors Yves, la prise de position politique, enfin tu l'as résumé un petit peu dans tes propos. Quand est-ce qu'on peut dater cette prise de position politique des Noirs américains, à partir de quand? Et est-ce que il y avait quelle conscience ils avaient de cette position politique?
Tout commence, je dirais, on va essayer de refaire un tout petit peu d'histoire. Il y a deux organisations très importantes aux États-Unis sur ces trois siècles. Le premier, c'est la franc-maçonnerie noire Prince Hall. Ça s'appelle Prince Hall. Cette franc-maçonnerie noire a joué un rôle prépondérant dans la libération des Noirs en créant des institutions parallèles aux institutions blanches. À partir de cette franc-maçonnerie noire qui s'appelle Prince Hall, du nom d'un esclave qui s'appelle Prince Hall, il y a une association qui s'appelle la NAACP, c'est-à-dire l'Association nationale pour l'aide au développement des gens de couleur, qui date de 1917. Grosso modo. Donc, évidemment, la plupart des musiciens y ont adhéré, Nat King Cole, Duke Ellington, etc., etc. Ils ont donné beaucoup d'argent, puisqu'ils ont eu beaucoup de succès, pour financer toute cette société parallèle qui va de l'école, du dispensaire, de l'éducation, et notamment de l'éducation musicale. Je voudrais juste refaire un petit aparté concernant Louis Armstrong. On a beaucoup reproché à Louis Armstrong d'avoir une attitude entre guillemets oncle Tomiste. En fait, c'est faux. Il savait très. Louis Armstrong est un homme extrêmement intelligent et qui sait parfaitement ce qu'il fait en maîtrisant cette histoire. Si vous êtes cinéphile et que vous voyez le cinéma américain, à chaque fois qu'il y a cette histoire. Qui va aller en se durcissant au fur et à mesure des années qui vont arriver. Mais au début, il y a deux grands courants. Il y a un courant qui est-ce qu'on doit retourner en Afrique ? C'est le mouvement panafricain, où on se dit, est-ce que nous, comme on est esclaves, est-ce qu'on va retourner en Afrique ? Et puis il y a une deuxième version qui dit... Bah, finalement, c'est nous qui avons construit ce pays avec notre sang, nos sueurs et nos larmes, et nous avons eu toute légitimité à y rester. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont restés. Donc les premières luttes contre les lynchages qu'il y a eu dans le Sud commencent, je dirais, au début du XXe siècle.
Ouais, autre question, parce que tu l'as évoqué, concernant la franc-maçonnerie. Le rôle qu'a eu la franc-maçonnerie, enfin en deux mots, Et puis, peut-être expliquer que ce qu'on a aux États-Unis, c'est complètement différent de ce qu'on a, de ce qu'on a en France. Par exemple, il y a des photographies qui montrent des jazzmen avec leur attribut de franc-maçon, chose qui est complètement impensable en France.
Oh, oui, enfin bon, on ne va pas parler uniquement de la
non, France. Mais enfin, pour donner un petit peu le...
Alors, c'est très différent parce que la franc-maçonnerie blanche, elle est ce que tu dis, c'est-à-dire très posée dans le système, que la franc-maçonnerie noire, pas du tout. Il faut savoir qu'en 2022, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a encore 6 États du sud des États-Unis qui ne reconnaissent pas cette franc-maçonnerie, c'est-à-dire que la mixité, elle n'est absolument pas faite. Sous Donald Trump, les crimes racistes ont augmenté de 28%. Donc vous voyez que le problème de la ségrégation raciale ou du racisme aux États-Unis, il n'est pas du tout réglé. Il est même loin d'être réglé, puisque beaucoup de populations non noires mais non blanches ont décidé de ne pas être blanches. Par exemple, les hispanos, les latinos se sont déclarés comme étant non blancs, ce qui en dit long sur la société. Enfin, quand on connaît bien les États-Unis, c'est assez étrange pour nous. Hein, voilà. Et donc tout ce message qu'on a entendu avec Louis Armstrong commence un peu à se structurer. Alors nous allons écouter un deuxième extrait qui est une suite d'une œuvre de Duke Ellington qui est absolument fondamentale justement dans la prise de conscience. C'est une grande suite qui date de 1943. Je crois que celle que nous allons écouter date de 1947, il me semble, en public. C'est une œuvre en 3 parties qui dure plus d'une heure. Nous allons écouter un extrait de la 3e. Black, Brown and Beige, dans l'esprit de Duke Ellington, alors qu'on pense que Duke Ellington est quelqu'un qui est extrêmement établi dans la société américaine, ce qui est vrai d'ailleurs, puisque son père travaillait à la Maison Blanche. Bon, voilà, c'est donc une petite bourgeoisie noire qui permet aussi d'émanciper, je dirais, le peuple. Donc, dans cette grande suite, Black, Brown and Beige, il dit « Black, c'est la partie noire, esclavage, où le noir est victime, il bouge pas. Brown, il commence petit à petit à s'émanciper, et beige, c'est le moment où il est capable, en tant que soldat, de se faire tuer pour la nation américaine. » Donc vous voyez, c'est quand même une position extrêmement particulière de cette œuvre, qui est un discours politique. Mais encore une fois, c'est pas un discours politique comme nous pouvons avoir un discours politique affirmé. Il est beaucoup plus subtil, parce que dans une société où les toilettes sont réservées aux Blancs, les places de bus sont réservées aux Blancs, les écoles... Enfin bon, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous le faire. Donc c'est extrêmement difficile de faire passer un message politique. Et dès qu'il y a la possibilité de mettre un coin dans le trou, ils le font. Monique, si tu veux, Duke Ellington. Thank you. Merci bien. Donc, okay. On continue.
Vas-y. Bon, on remarquera la modernité de l'orchestration de Duke Ellington.
Oui, ouais. C'est absolument incroyable. C'est une musique qui date qu'il a composée dans les années 40. Hein. C'est quelque chose qui est. On a souvent l'image d'un Duke Ellington très verni, paillette, mais en réalité, c'est un compositeur. Il a composé plus de 1000 pièces. Il a pris 4 jours de vacances pendant toute sa vie. Donc voilà, c'est un type extrêmement prolifique.
Est-ce qu'on peut aborder en quelques instants, si on peut dire, la réception du jazz, ou en tout cas des musiciens noirs dans la société américaine ?
Je citerai la phrase de... Non, je vais vous dire la phrase et après je vous dirai qui c'est, parce que c'est une phrase qui date de 1928 et qui dit ceci, qui dit « Vous, les Américains, vous prenez le jazz pas assez au sérieux alors que ce sera la musique classique des États-Unis. » Vous savez qui a dit ça ? C'est Maurice Ravel en 1928. Donc c'est pour dire à quel point, là aussi, il y a quelque chose de compliqué. La France a été le premier pays au monde à recevoir le jazz en dehors des États-Unis. Hein. Le jazz fait partie de la culture états-unienne. Il y a, je ne sais plus dans quel film, une histoire assez rigolote qui dit... si vous enlevez les juifs et les noirs, il n'y a aucun mouvement artistique en dehors d'eux. Donc voilà, le jazz, c'est essentiellement évidemment les noirs, les italo-américains et les juifs. Ils vivent à peu près tous en même temps, ensemble. Tout le monde se retrouve. Les Italiens aiment bien faire la musique, les juifs aussi. Donc voilà, donc on retrouve... ces trois communautés dans la construction de cette musique, qui est évidemment un croisement entre l'Occident et l'Afrique. Je ne vais pas redévelopper...
L'influence amérindienne.
Alors, l'influence des Américains, des vrais, des natifs américains des Appalaches, rentre aussi pour une part souvent occultée dans cet apport, de cette construction de cette musique. Il y a un thème très célèbre qui s'appelle Cherokee, donc qui est aussi, je dirais, un hommage aux vrais Américains, hein, qui ont été malheureusement décimés par les Blancs, une fois de plus. Donc on continue sur...
On peut continuer après les années 20. On voit des orchestres tels que celui de Benny Goodman, par exemple, qui va intégrer des noirs et des blancs dans les orchestres.
Voilà. Alors Benny Goodman, c'est l'exemple type du musicien blanc qui va avoir des ennuis avec tout le monde. D'abord, il était très amoureux de Billie Holiday, donc il embauche Billie Holiday. Et lorsqu'il arrive dans le Sud, on fait passer tous les musiciens blancs par la porte d'entrée de la salle de concert. Mais on refuse la porte d'entrée principale pour les musiciens noirs, dont Billie Holiday. Donc eux, ils sont obligés de monter par le monte-charge. Et donc Benny Goodman dit, bon là, ça suffit, il y en a assez. Et il refuse, très clairement, il refuse de tout concert où la ségrégation raciale fonctionne encore dans le sud des États-Unis. Alors il aura des ennuis, Benny Goodman, à la fois par les Blancs qui reprochent à Benny d'embaucher des Noirs, et il va avoir des ennuis avec les Noirs, avec les Noirs qui reprochent aux Noirs de jouer avec un Blanc. Vous voyez à quel point les choses sont extrêmement, je dirais, difficiles. Alors arrive l'entre-deux-guerres, les grands orchestres, Cornbusy, Duke Ellington, tout ça. Et puis la guerre arrive et arrive un mouvement qui s'appelle le bebop avec Charlie Parker, où il n'y a pas de discours politique, je dirais, précis, mais il y a un discours politique dans la musique elle-même. Alors j'essaye d'expliquer ça, c'est-à-dire qu'ils vont créer une musique tellement compliquée, tellement complexe, que en fait, ils veulent faire en sorte que les musiciens blancs ne puissent pas la jouer. Et donc, ils vont retrouver des harmonies très compliquées, comme par exemple ce qu'on appelle le triton, ce qu'on appelle la quinte diminuée, qui est une notion harmonique. Alors, attention, accrochez-vous bien, c'est une notion harmonique qui est compliquée parce qu'on ne peut pas résoudre, elle est irrésolue. Et donc, c'était une harmonie qui était interdite depuis le Moyen-Âge dans la musique classique parce qu'elle avait la mauvaise idée de faire jouer les femmes. Donc, évidemment, comme la religion voulait toujours maintenir sous le boisseau tout le monde, y compris les femmes, donc cette harmonie était totalement interdite. À tel point que Jean-Sébastien Bach a failli perdre sa chaire de Kapellmeister parce qu'il commençait à bricoler des choses. Et comme les moines copistes qui regardaient savaient quand même ce qu'ils faisaient, ils lui ont dit « Ah, attention, pas bon ». Mais les boppers ont retrouvé un message révolutionnaire en réintégrant toutes ces harmonies extrêmement terribles. On va écouter un extrait, je ne sais plus, j'ai plus toute ma tête, mais je vous le dirai après. C'est parti, Monique. L'extrait qu'on vient d'écouter, très court, je m'excuse parce que le temps passe tellement vite que je vous conseille d'écouter mon émission où je parle plus de ce genre de choses, hein, j'ai plus de temps. Il s'agit de John Coltrane et le thème s'appelle Alabama. Alors Coltrane est un mystique, c'est quelqu'un qui a vu Dieu, donc quand on a vu Dieu, on meurt tôt, ce qui est son cas. Il révolutionne totalement toute la musique puisque c'est un des inventeurs du free jazz avec Ornette Coleman. Mais Alabama est une réponse politique parce qu'il y a eu un attentat à Birmingham en 1964 et 4 fillettes ont été tuées par le Ku Klux Klan. Et donc la réponse de Coltrane, elle est immédiate. Il compose ce thème Alabama qui est un discours politique. C'est-à-dire qu'encore une fois, tout est lié entre l'engagement religieux et le discours politique. Les États-Unis ont été, je dirais, conçus sous cette idée de liberté d'expression, mais liberté d'expression confessionnelle dans tous les sens. Il y a des sectes partout, des congrégations, des clubs philosophiques, surtout à la Nouvelle-Orléans. Et Coltrane, même s'il ne s'exprime pas par la parole de cette manière, eh bien, dans ses titres, on est complètement, je dirais, dans un discours, dans un message politique après cet attentat qui est, comme tous les attentats du Ku Klux Klan, absolument strictement odieux. Voilà, on va terminer sur un autre musicien qui a été extrêmement protestataire, qui est Charlie Mingus, qui était sous-titré « L'homme en colère ». Et donc, Charlie Mingus passait son temps à se battre contre lui-même, déjà. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais aussi contre la police. Donc, il avait beaucoup de problèmes avec la police. Et dans tous ses titres, il y avait, aussi un message extrêmement politique, et notamment dans un de ses derniers albums qui faisait allusion au sénateur Phobus qui avait fait tirer par l'armée sur les détenus qui s'étaient révoltés dans la prison d'Attica. Et donc, dans les années 70, vont avoir un discours beaucoup plus clair avec Archie Shepp, qui va vraiment avoir un discours, lui, il est plus engagé, proche du Parti communiste américain. Il est toujours vivant et il vit en France. Et après, toute cette période entre les années 60, notamment avec l'Art Ensemble au Chicago, qui va truster, tout le centre culturel américain, ça va être une explosion jusqu'à la fin des années 80 où tout va, s'arrêter. On va écouter donc un dernier thème de Charlie Mingus sur ce qu'il appelait les petits nazis à Attica. Voilà, je vous remercie et n'oubliez pas d'écouter mon émission premier et troisième jeudi. Merci.